Chères auditrices, auditeurs de Studio Kalangu, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du forum de Studio Kalangu que vous recevez via notre réseau de 52 radios et 7 télévisions partenaires dans tout le Niger. Contribution des leaders religieux de la lutte contre l'insécurité grandissante en milieu urbain, c'est le thème du forum de ce jour. Vol à l'arraché, braquage en plein jour, disparition des enfants, multiplication du réseau de malfrats, un réel phénomène d'insécurité qui gagne du terrain dans les villes urbaines. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur la société. Mais comment expliquer cette insécurité grandissante et inquiétante dans nos villes? Quelle est la perception de l'islam et du christianisme face à cette insécurité dans notre société? Quelle est la contribution de ces religions dans la lutte contre ce phénomène et comment endiguer ce phénomène? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Révérend Djergou Baragé, il est membre du Comité national de dialogue intra- et interreligieux au Niger, CEDIR. Bonsoir.
Bonsoir.
Alou Hama Mega, membre également du Comité national de dialogue intra- et interreligieux au Niger. Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération et merci d'être venu, chers invités. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du forum de Studio Kalangu. Mais avant d'entamer le vif du sujet, je vous donne la parole, chers invités, pour nous présenter une fois de plus le Comité national de dialogue intra- et interreligieux au Niger. Je commence par vous, Monsieur Alou Mega.
Oui,
merci, présentez-nous madame. Le CEDIR.
Donc, je m'appelle Alou Hama Mega, secrétaire chargé de relations avec les partenaires au sein du CEDIR national du Niger. Donc le CEDIR national du Niger, le Comité national de dialogue inter- et interreligieux, a vu le jour après la constitution des CEDIR régionaux. Puisque le comité de dialogue inter a été déjà installé dans chaque région de notre pays. Et cela est dû au fait que vous n'êtes pas sans savoir avec le phénomène de Boko Haram, l'islam et surtout les religions monothéistes, l'islam et le christianisme. Donc partout où il y avait effectivement soit un pasteur ou un révérend ou un grand marabout, ils étaient ciblés. C'était les gens qui étaient vraiment molestés, séquestrés et enlevés sans raison. Donc, il fallait ensuite ces gens-là, dans leur malhonnêteté, s'en prenaient non seulement aux religieux, mais également ils avaient pour religion leur raison d'être, ce qui était complètement faux. Au nom d'aucune religion, on ne peut attenter à la vie d'un autre. Donc c'est pour ça que le SOS civisme donc, a eu cru bon avec la haute autorité de la consolidation de la paix. Ils ont institué des CEDIR régionaux dans toutes les régions du Niger, à commencer par Difa, Maradi, Zender et Niamey, et ensuite les autres régions aussi se sont vues dotées de CEDIR régionaux. Après ces CEDIR régionaux, maintenant, l'État a institué un CEDIR national, et cela pour se mettre en conformité avec les autres États de la CEDEAO qui également ont des CEDIR nationaux. Et d'ailleurs, il y a eu également ici un forum à Niamey, ici, où des forums, des CEDIR nationaux des autres pays sont venus ici, où on a eu à travailler avec eux au niveau de Niamey ici.
D'accord. Alors, Monsieur Révérend Djergou Baragé, quelles sont donc les missions et objectifs du CEDIR?
Merci beaucoup pour cette opportunité que j'ai pour parler du CEDIR. Et merci également pour le studio Kalangu qui a bien voulu nous inviter.
C'est le plaisir pour nous.
Donc, surtout la priorité et l'objectif du CEDIR, c'est la paix, le bon vivre ensemble. Donc, c'est pourquoi comité de dialogue intra- et interreligieux, ça veut dire quand il y a des problèmes, Donc on fait appel à eux.
Pour résoudre.
Et j'ai même un nom que j'ai donné à ce comité de sapeurs-pompiers de problème. Donc dès qu'il y a un problème, surtout
secours,
dans le
oui.
cadre religieux, alors que ça touche les musulmans et les chrétiens, ou les chrétiens et les musulmans, vice-versa, donc on fait appel au CEDIR. Et le CEDIR vient donc avec les textes donc, que nous avons, textes religieux, et nous cherchons un terrain d'entente. Et gloire à Dieu, en tout cas partout où on nous appelle, Dieu nous a donné en tout cas une solution à des problèmes.
Et à la date d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir sur quelques-unes de vos actions pour la société?
Oui, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées. Et il y a eu des problèmes entre les musulmans et les chrétiens, et on nous a fait appel.
D'accord.
Et quand nous sommes rendus sur le terrain, nous avons fait le constat. Et avec les autorités, on a pu quand même trouver un terrain d'entente. Et vraiment maintenant, c'est la convivialité. Et les deux sont prêts à travailler ensemble, à lutter contre leur ennemi commun.
Voilà.
Donc voilà, ça je peux le dire. Et surtout avec un programme initié avec ces Vision Mondiale qui nous a formés. Ça s'appelle Do No Harm en anglais, ce qui veut dire ne pas nuire.
Alors.
Nous sommes en train de former des gens qui vont, en tout cas pendant 3 jours, qui vont apprendre beaucoup de techniques. C'est à partir des choses que nous connaissons. Il suffit de les organiser et faire, en tout cas, des bureaux du CEDIR, parce que nous avons au niveau national, au niveau régional et au niveau communal. Et nous sommes même en train d'installer ça au niveau des départements.
D'accord.
Donc nous formons des gens, nous les expliquons comment est-ce qu'ils doivent travailler ensemble, comment est-ce qu'ils doivent être des sapeurs-pompiers des problèmes, et comment est-ce qu'ils doivent travailler la main dans la main avec les autorités et ensemble pour que la paix puisse s'installer dans notre pays et que nous puissions avoir un bon vivre ensemble.
Merci donc pour cette présentation du Comité national du dialogue intra et interreligieux au Niger qui prône donc la paix, le bon vivre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous parlons de la contribution, de votre contribution leader religieux dans la lutte contre un phénomène qui gagne du terrain en milieu urbain, c'est l'insécurité. Avant donc de vous donner la parole, je vous propose d'écouter une interview que nous a accordée Hamadou Bagna. Il est sociologue. Il nous parle de cette insécurité de la ville de Niamey.
L'insécurité urbaine est en train de prendre de l'ampleur de plus en plus pour diverses raisons. En tout cas, les principales raisons sont liées d'abord à la vulnérabilité économique des ménages.
C'est-à-dire?
Les familles n'ont pas les moyens pour prendre en charge leurs enfants. Et il y a la faute de responsabilité des parents. Et la responsabilité, des fois, elle est léguée aux enfants. C'est aux enfants de se prendre en charge. L'enfant, il sort, il quitte la maison, il passe toute la journée sans pour autant avoir à ses côtés son papa ou sa maman qui sont là à le surveiller, à s'occuper de lui. Donc, l'enfant sait qu'à la maison, il n'a pas à manger. Il pense qu'il doit se débrouiller en ville pour pouvoir se prendre en charge. Il y a également l'oisiveté. Il y a le manque d'emploi. Donc, toutes ces raisons font que les enfants sont laissés à eux ou les jeunes sont laissés à eux et ils s'adonnent à des pratiques néfastes.
Justement, quelles sont les pratiques les plus récentes?
Oui, les pratiques les plus récentes maintenant, c'est le vol de portable, c'est le vol de moto, c'est le vol d'argent, c'est l'attaque des institutions de microfinance. Donc, ce sont, en tout cas, la plupart des crimes qui sont en train de s'opérer dans le contexte actuel au niveau de la ville de Niamey, c'est surtout lié au vol. Mais ce qui est très grave, c'est que c'est des vols qui sont faits avec menace, avec violence physique. Donc, vous voyez, à cause d'un portable, quelqu'un vous menace, quelqu'un vous poignarde, un bandit vous poignarde, il met en danger votre vie. Des fois, il y a des gens qui vont jusqu'à perdre leur vie à cause d'un portable ou à cause d'une moto. Donc, cette situation ne fait que prendre de l'ampleur et de plus en plus, elle est en train d'inquiéter à plus d'un titre l'ensemble des communautés qui y vivent dans la à Niamey.
Les conséquences sont donc énormes sur la société, mais comment vraiment endiguer ce phénomène?
Les conséquences sont énormes parce que on tend vers une dépravation des mœurs, on tend vers des pratiques néfastes qui jouent avec nos valeurs sociales.
Mmh.
Et ces conséquences, c'est que si on y prend garde, nous allons produire des jeunes qui, de la plupart des cas, n'ont rien à faire que de s'en prendre aux paisibles citoyens, de les malmener. Et si l'on y prend garde, cela va continuer à menacer nos communautés et cela va nous empêcher même sur le plan du progrès économique et social d'évoluer. Un pays qui a une jeunesse, donc cela peut gravement affecter son épanouissement économique et social à la longue. Si on y prend garde, on n'aura pas donc des jeunes qui vont travailler pour contribuer au développement de la nation.
Malheureusement,
donc, je pense que pour endiguer ce phénomène, la première responsabilité nous revient, nous en tant que parents. Nous en tant que parents, nous devons assumer nos responsabilités. Nous devons garantir à nos enfants le minimum vital. Et la deuxième responsabilité, je pense qu'elle incombe à l'État. L'État doit prendre des mesures, notamment dans le domaine de la création des opportunités d'emploi, pour permettre à la jeunesse d'être occupée et de ne plus s'adonner à des pratiques malsaines. Et la troisième responsabilité, et je pense qu'elle revient à toute la société, à la société entière. Et quand je dis société entière, je mets entre parenthèses les leaders d'opinion, c'est-à-dire tous ceux qu'on a comme chefferie traditionnelle, tous ceux qu'on a comme guide religieux. Ces gens-là aussi doivent mettre leurs mains dans la pâte, ils doivent mettre à contribution leur aura, ils doivent mettre à contribution leur personnalité pour amener les gens à changer de comportement.
Si
donc, il doit vraiment contribuer de ses faits à travers des sensibilisations pour pouvoir vraiment jouer sur ce banditisme-là qui est en train de prendre des mesures disproportionnées et qui est en train de compromettre vraiment l'épanouissement de toute notre société.
Vous venez là donc d'écouter M. Hamadou Bagna, sociologue, qui vient de nous faire une analyse sur le point sociologique de cette recrudescence de l'insécurité de la ville de Niamey. Monsieur Alou Hama, vous de votre côté, quel est votre constat sur le terrain? Comment se présente actuellement, selon vous, la situation sécuritaire de la ville de Niamey?
Merci madame. J'attache de l'importance à ce que vient de dire le sociologue et je suis tout de cœur avec lui et tout à fait, il a parfaitement raison, il a bien situé la situation de ces jeunes-là. Pour nous, au niveau des religieux, vous savez bien que les textes coraniques sont là et qu'il faut une bonne éducation à nos enfants.
Justement, oui.
Le parent doit donner une bonne éducation à l'enfant, il doit donner l'exemple, puisque le parent, c'est le miroir de l'enfant, il voit le monde à travers les agissements de son père ou de sa mère. Donc, ce sont les parents. Or, les préceptes sont clairs. Tu ne dois pas nuire à quelqu'un d'autre. Ne fais pas à quelqu'un ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais le problème ici, à l'heure actuelle, il faut voir la situation endémique dans laquelle se trouve le pays même. Il n'y a pas assez d'emplois dans le Niger. Les parents, le plus souvent, sont pauvres. Le père qui sort le matin, il n'a pas d'emploi, il va, il revient. Il a même honte de regarder même ses enfants. Il ne peut absolument... Alors, cet enfant-là qui passe des journées entières sans avoir quelque chose dans le ventre, alors, une fois, il fait une fugue, il quitte le foyer familial, laissé à lui-même, alors il est prêt à toutes les déprévations.
Il s'adonne à toute pratique néfaste.
Il s'adonne
et malheureusement, ce sont les jeunes qui...
Et le problème actuel, c'est que le sociologue n'a pas souligné, c'est que le plus souvent, ce sont les jeunes filles qui sont utilisées dans ce genre de choses. C'est elles qui servent d'appât pour ce genre de choses. C'est elles-mêmes qui rentrent dans les concessions et qui volent et qui viennent tendre le produit, le vol de leur larcin aux garçons. C'est là où le bât blesse. Et il y a effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le sociologue, il y a la responsabilité de l'État. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'établissement capable de résorber des jeunes pour leur donner un emploi viable. Et nous nous voyons, nous constatons qu'en bien même ces enfants suivent une formation, il y a l'inadéquation entre la formation et les besoins de l'emploi.
Mm-hmm.
Hein, sur le plan emploi, la formation de certains jeunes ne cadre pas avec les besoins de l'emploi.
Mm-hmm.
On les forme dans des instituts qu'on vient de créer à tout le monde, gestion de projets, gestion de ceci, cela, droit,
gestion d'entreprise.
Alors que sur le au niveau, il n'y a aucune structure capable de résorber ces gens dans cet emploi-là. Mm-hmm. Alors, même la reconversion aussi n'est pas possible puisque l'État même a des carences dans ce
domaine.
Mais
est-ce que vous pensez que le manque d'emploi est une raison vraiment pour ces jeunes de
C'est bel et bien une raison, parce qu'un jeune qui est bien encadré, il sait que le matin, il a un emploi à faire, il cherche à fonder un foyer lui aussi, il est responsable.
Mm-hmm.
Mais laissé à lui-même, il est prêt à tout, et c'est l'influence de ses autres copains qui ont déjà dévié qui est prépondérante. Il est obligé de suivre, puisque il y en a qui sont même menacés, ils ne font même pas de gaieté de cœur. C'est sous des menaces des gens, c'est des bandes. On a vu la police a maintes fois arrêté ces gangs-là. On les voit, c'est des gens.
Ils mettent la main
mineurs.
Sur les groupes de malfrats.
Chaque deux jours, on entend
la police.
Mais pourtant, il y a toujours la récidive. Et il y a également, de l'autre côté, on peut dire que dans notre société, il y a également la responsabilité de nos forces de défense et de sécurité.
En quoi,
qui ne cherchent pas à se rapprocher de la population. Il faut qu'il y ait
une collaboration.
Confiance entre la population et les forces de défense, c'est ce qu'on appellerait au point de vue sécurité rapprochée.
Mm-hmm.
Quand quelqu'un a confiance en vous, il peut vous donner des informations qui peuvent être utiles, qui permettent de neutraliser ces bandes-là à temps, avant même qu'ils ne puissent opérer.
D'accord.
Or, s'il n'y a pas la confiance entre les forces de sécurité et la population,
ce
phénomène aura toujours son importance. Il faut cela, et c'est aux forces de défense de faire un mea culpa, de revenir vers la population. Puisqu'ils sont issus de la population, ils sont de la population, ils sont là pour la population.
D'accord. Révérend Gergou Baragé, vous venez donc d'écouter plus haut le sociologue sur la situation dans nos villes urbaines. Vous, de votre côté, avez-vous connaissance d'autres formes d'insécurité dans nos villes?
Ah oui, puisque je vis à Niamey, donc je sais ce qui se passe. Pas plus qu'avant-hier, un garde est venu, ou du moins un gardien est venu jusque chez moi. Et il m'a dit, hier nuit, t'as pas constaté quelque chose? Il y a un voleur qui a passé par les murs de ta maison.
Ouais.
Et il est rentré dans notre maison, mais malheureusement, heureusement, il n'a pas pu prendre quelque chose. Il a pris la fuite. Donc, en tout cas, ça nous touche tous. Et même, il y a nos enfants, il y a nos femmes qui sortent, elles ont peur. Il y a certaines rues de Niamey, elles ne peuvent pas passer par là. Parce que vraiment, il y a le mal qui est un peu partout.
Le vol à l'arraché avec des armes blanches, tout
exactement.
Ça. Donc ça inquiète la population.
Ce qui me fait beaucoup plus peur, c'est parce que j'ai constaté que les voleurs, les malfrats, ils sont organisés. Mais la population n'est pas organisée. Aujourd'hui, un voleur te prend. Alors, on te laisse avec ton voleur, même en plein marché devant tout le monde.
Il n'y a pas une assistance, aucune assistance.
Ils disent qu'ils ont, ils ont peur pour que après les voleurs vont revenir, donc pour attaquer la personne. On m'a parlé d'une femme qui faisait les galettes. Bon, un voleur voudrait attaquer quelqu'un, elle a averti. Il n'a pas pu attaquer, mais le lendemain matin, ils sont venus très tôt. Ils savent qu'elle vient très tôt.
Très tôt, là où
elle fait ses galettes.
Ils
lui ont dit, tu nous reconnais? Elle dit non. Elle dit, c'est nous, hier, tu nous as empêchés de
malheureusement.
Donc maintenant, le loup, là, comme on l'appelle ça en Hausa, on fait la galette, ils ont dit, il faut boire. Et c'est ainsi que cette malheureuse a terriblement pas agressée. Et je ne sais pas en tout cas la suite, mais je sais que les voleurs sont un peu partout.
C'est des cas fréquents vraiment dans la ville de Niamey ces derniers temps.
Voilà. Donc moi, ce que je déplore, c'est le fait que la population maintenant, elle-même ne s'est pas organisée, ne s'occupe pas de ce volet-là, et on te laisse, le mal est là en train d'atteindre d'une manière vraiment inquiétante la société, et personne ne dit quoi que ce soit.
D'accord.
Et ça, c'est très important que nous nous ressaisissions et que nous puissions faire quelque chose.
Mais quel est le regard de la religion chrétienne par rapport à ces actes d'insécurité même?
Bon, pour ce qui est de la religion chrétienne, moi je retourne aux lois que Dieu a données au prophète, comment on appelle ça, Moïse. Les 10 commandements. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, il a résumé également ces 10 commandements en 2 commandements. Le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le deuxième, il a dit qu'il lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc le christianisme, bien sûr, est pour le bon vivre ensemble, le respect. Et si nous craignons Dieu, si nous respectons Dieu, certaines choses, nous n'allons pas, en tout cas, les faire. Et c'est la même chose aussi, si nous nous aimons les uns les autres, nous n'allons pas attaquer notre prochain. Nous n'allons pas vouloir faire du mal et même chercher à régresser quelqu'un d'autre. Donc le christianisme est 100% d'accord avec le bon vivre, avec la solidarité, avec la justice également. Donc c'est pourquoi donc je dirais vraiment pour nous les chrétiens, on prie. On prie pour que Dieu nous donne une prise de conscience et que nous puissions nous organiser.
D'accord.
Et je peux donner un exemple qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Quand j'étais arrivé dans le quartier de Dar es Salaam, je suis à Dar es Salaam. Voilà, donc on avait instauré quelque chose. Nous nous réunissons chez le plus vieux du quartier.
Le doyen.
Alors, tous les propriétaires de maisons se retrouvent une fois par mois là-bas. La première question que nous nous posons, la santé du quartier.
Effectivement.
Et chacun donne son point de vue. Et si vous avez un nouveau locataire, tout de suite, vous dites, j'ai un nouveau locataire. Et on vous pose des questions, mais il travaille
où?
Et qu'est-ce qu'il fait? Quel est son métier? Et si vous ne savez pas, on vous dit, ben, le mois prochain, quand on va se retrouver, amène-nous des informations fiables par rapport à ce locataire. Ensuite, nous cotisons en ce moment, c'était 1000 francs par foyer. Alors, avec cet argent, nous avons aussi équipé ou occupé notre jeunesse. C'est que tous les coins, les carrefours du quartier, nous avons dit, bon, comme vous aimez faire des fadas et tout ça, là, vous prenez du thé, on les donne du thé, on les donne du sucre, et toute la nuit, ils sont là.
Ils se connaissent
et dès qu'ils voient quelqu'un pénétrer dans le quartier, ils l'abordent, ils lui demandent d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu vas. Et si tu dis c'est chez un tel, ils vont t'accompagner jusqu'à la porte de la personne, on le réveille. Si toutefois c'est un mensonge, alors ils vont t'accompagner à la police.
En tout cas, c'est des bonnes initiatives
donc,
comme ça.
Ce sont des choses qui ont beaucoup aidé. Quand même, la vigilance est toujours là.
La vigilance doit être de mise.
Donc le christianisme n'est pas contre, en tout cas, ce genre d'organisation où nous devons veiller les uns sur les autres.
Le christianisme est contre vraiment tout acte de violence. Monsieur Alou Mega, concrètement, que dit l'islam vraiment par rapport aussi à ces formes d'actes de violence qu'on rencontre dans nos villes?
L'islam, c'est une religion monothéiste, donc tout comme le christianisme. Donc Dieu, dans ces versets coraniques, a toujours été clair. Tu respecteras tes parents d'abord. Le devoir du jeune, c'est d'abord le respect à l'égard de ses parents d'abord. Or, ces jeunes-là qui ont dévié n'ont aucun respect de leurs parents. D'abord, il y a même un abandon du foyer.
La plupart ne vivent plus avec leurs
la
parents.
La plupart
c'est
ne
le constat,
vivent
oui.
même pas avec leurs parents. Ils sont avec leurs collègues qui sont également aussi ignorants qu'eux. Et surtout quand ils ont un leader qui ne respecte rien et qui se lance dans le banditisme, c'est vite fait de pouvoir déjà contaminer les autres. Et puis c'est de toutes les façons, l'islam est pour la bonne éducation des enfants qui ont un droit et devoir, justement. Le devoir de parents, c'est d'avoir éduqué leurs enfants dans la droite ligne des préceptes de l'islam. Donc, le respect des vieux, le respect des institutions, le respect de voisins et autres, et surtout le respect de la chose d'autrui. Et or, ces gens-là, c'est à cela qu'ils s'attaquent. Effectivement, l'UASUBT, qui ne font absolument rien, ils sont laissés à eux-mêmes, ils ont besoin de se faire, d'apparaître ce qu'ils ne sont pas. Il faut bien s'habiller, il faut manger, donc tout ça demande.
C'est tout normal qu'ils s'adonnent à certaines pratiques.
Oui, il faut avoir les moyens. Or, ils n'ont pas les moyens, il n'y a pas d'emploi. Les emplois sont rares. D'abord, même les parents n'ont pas d'emploi, à plus forte raison, ces jeunes. Et puis, il faut un encadrement de la jeunesse, il faut un emploi, c'est-à-dire que des initiatives, on doit les former pour en faire une sorte d'autonomisation. Malheureusement, nous avons constaté qu'ici, à Niamey, il y a des choses bizarres. Quand bien ces jeunes arrivent, à devenir autonome, c'est des services de l'État au plus haut niveau, au plus haut niveau qui viennent détruire ce qu'ils avaient conçu pour Bachi. On a vu ici à la veille de la fête que le gouverneur de Niamey a cassé les kiosques où les enfants faisaient des galettes ou autres, ils vendaient un peu du tout de Bachi. À la veille de la fête, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Et ça, on l'a ça
comme
toujours
raison,
sur la conscience.
Ils avancent comme raison que ces gens occupent peut-être...
Mais la voie publique la est laissée publique. Maintenant. Maintenant, personne ne peut s'aventurer dans ces voies publiques. À partir de 21h, je défie quiconque de prendre la route du CEG11 pour dire qu'il va aller au petit marché. Même un homme, tu ne peux
violence.
Pas... Évidemment, tu es attaqué. Ce n'est même pas la violence. On te dit, mais de voir ce que tu as dans ta... On te dépouille jusqu'au petit monnaie, la petite monnaie que tu as dans ta poche. Donc, les autres, c'est les bandes organisées qui font dans les familles ou autres pour les molester, prendre les portables ou les télévisions et autres. Mais les autres, dans les rues, même à pied, à l'heure actuelle, à Niamey, à partir de 21h, 22h, s'il n'y a pas de patrouilles de police un peu partout, tu ne peux même pas circuler à pied à Niamey maintenant. Et même sur les motos, tu es encore attaqué, on attache une corde là pour te faire tomber. Et si tu es dans un véhicule, c'est des œufs qu'on te balance au pare-brise, il ne faut même pas t'arrêter s'il n'y a pas de gens à côté.
Vraiment, dès qu'on
te balance un œuf sur le pare-brise, continue. Si tu t'arrêtes tout de suite, tu es assailli par un groupe de jeunes qui vont machiner ou bien de la colle qu'on te verse sur le pare-brise. Donc, voilà, on vit dans une insécurité totale à Niamey.
Et l'impact est énorme sur la société.
Et l'impact, comme le disait tout de suite le révérend, le malheur est que maintenant, on ne porte pas assistance à personne en danger. Tu as beau crier, personne ne vient t'aider à sortir des griffes de ces malfrats. Trois ou quatre, ils t'assaillent, ils te vident ton véhicule, on prend tout ce qu'il y a. Quand tu as une crevaison, il ne faut même pas t'arrêter. Il faut aller même sur des gens pour aller là où il y a des gens. Tant que tu ne trouves pas des gens où tu peux à tout moment avoir un secours, il ne faut pas t'arrêter en pleine rue, dire que tu vas nettoyer ton pare-brise parce que tu seras attaqué.
Merci bien. Vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, ce que j'ai voulu ajouter, c'est que dans le christianisme, il nous a dit « Apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre. » Même quand il deviendra vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, je vais par là parler de la responsabilité des parents. Nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Et aussi, comment est-ce que nous pouvons les apprendre la voie qu'ils doivent suivre si nous-mêmes, nous ne cherchons pas à connaître cette voie.
Effectivement.
Et la voie qu'ils doivent suivre, c'est la voie de Dieu. Et les parents, donc, doivent chercher à connaître la parole de Dieu en vue de l'enseigner à leurs enfants. Et ainsi, quand ils deviendront grands, en tout cas, ils ne vont pas s'en détourner.
D'accord.
Et c'est très important par rapport à ça. Une autre chose, c'est que je déplore, c'est l'esprit de mendicité. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce que l'État fasse tout. En réalité, l'État ne peut pas faire tout. Il y a beaucoup de gens aussi qui s'attendent à ce que ceux qui sont des fonctionnaires ou qui travaillent, vous allez trouver 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes au dos de ces personnes-là. Mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? Donc, c'est très difficile.
Il faut une prise de conscience de toute la société.
Voilà, que l'esprit de mendicité nous quitte, mais que chacun cherche. Et si nous le faisons et que nous demandons à Dieu, en tout cas, Dieu ouvrira les portes.
Effect. Merci bien. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre ce débat. L'insécurité dans la ville de Niamey est une réalité avec différents cas de violence. Alors, M. Alou Mega, au niveau du Comité national de dialogue intra et interreligieux au Niger, c'est dire comment vous abordez la question de l'insécurité?
Au niveau du CEDIR, Le problème de l'insécurité, nous avons déjà dit que c'est l'oisivité, donc le manque d'emploi et autres. Nous, au niveau du comité de dialogue inter, nous avons fait un plaidoyer à l'endroit de l'État pour demander qu'il y ait des fonds alloués à un certain nombre d'individus, à raison de 500 par région, pour que de minimum leur soit octroyé pour le permettre 500 000 à chaque individu pour pouvoir s'installer à son propre compte et créer un petit emploi générateur de revenus.
Est-ce que cela aboutit?
On est là-dessus, la démarche continue, ce plaidoyer là, nous attendons les retours, donc on attend donc que des bonnes volontés se manifestent qui nous aident à ce que nous ayons une oreille auprès du chef de l'État qui écoute cela et que des dispositions soient prise pour la relance économique de ces jeunes désœuvrés. Et là, ça va également faire partie déjà des cas de résolution de ce phénomène d'insécurité, puisque quand vous êtes employé, vous avez un emploi, vous avez deux ou trois personnes qui vous aident dans votre emploi, vous avez déjà résorbé, ressorti deux dans le circuit et ainsi de suite. Et si c'est 500 par région, vous voyez ce que ça fait.
Effectivement.
C'est déjà une solution. Nous, au niveau du comité de dialogue interne, avec, comment dirais-je, les médias, vous les médias d'ailleurs, puisqu'on a fait ce plaidoyer là ensemble à l'endroit de plus haute autorité, bon, nous attendons la réponse. Donc, souhaitons que ça suive son cours et que surtout ça puisse aboutir.
D'accord. Voilà. Et donc, la lutte contre l'insécurité est un point qui figure parmi vos plans d'action, comme on vient de le comprendre. Révérend Jergou, quelle autre action du CEDIR sur le terrain pour lutter contre ce phénomène?
Moi, je dirais que une des actions clés, en tout cas, que nous sommes en train de mener, c'est cet enseignement que nous donnons aux leaders religieux. Donc, nous rassemblons les marabouts qui ont des mosquées de vendredi et tous les pasteurs qui se trouvent donc dans une région donnée, et on leur donne cet enseignement dans ce sens pour leur montrer comment ils doivent vivre ensemble, comment est-ce qu'ils doivent éduquer leurs enfants, comment est-ce qu'ils doivent utiliser leur influence religieuse pour enseigner la paix, pour enseigner la justice, que les jeunes, que tout le monde se mette au travail afin de lutter contre donc leur ennemi commun. Ça peut être la faim, ça peut être en tout cas un problème donné. Et nous avons vu à travers tout ce qui a été fait, les témoignages que les gens donnent, ils ont apprécié et ils étaient prêts donc à continuer dans ce sens. Ensuite, nous exhortons également tous les marabouts, tous les pasteurs à utiliser leur prêche pour sensibiliser, voilà, quotidiennement pour sensibiliser donc la population afin qu'ils puissent en tout cas aimer la vérité, aimer leur prochain. Moi, je crois que une fois que nous aimons Dieu et que nous aimons notre prochain, certaines choses nous n'allons pas les accomplir.
On peut vivre paisiblement.
Et on peut vivre aussi pour la gloire de Dieu.
Monsieur Alou Mega, vous intervenez dans toutes les régions. Comment ça se passe, comment se passent vos activités vraiment dans la lutte contre cette insécurité?
Donc, le CEDIR, effectivement, nous intervenons dans toutes les régions. Et le CEDIR national, comme son nom l'indique, d'abord, nous occupons de tous les cultes. Tous les cultes sont compris dans le CEDIR national. Quel que soit votre... Nous avons déjà, comment dirais-je, des baillis, nous avons des chiats, nous avons également, tout récemment, il y a même, on vous a parlé même de comment dirais-je, de religion traditionnelle, comme on parle de Bori et autres, là, puisque on est sur l'antenne ici, actuellement, vous avez un Peul et un Maori, donc c'est... Donc, effectivement, dans les régions, partout où nous intervenons, effectivement, ce sont les cas les plus, comment dirais-je, cruciaux qu'on aborde, et puis, effectivement, ensemble avec les populations concernées, nous arrivons à résoudre les conflits en question parce que, effectivement, il y a nos valeurs ancestrales qu'on fait jouer, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'au Niger, nous avons une chance que n'ont pas les autres pays. Nous avons la parenté à plaisanterie, voilà, qui est une autre force au Niger ici. Et quand on joue cela, c'est dès qu'on se rappelle des ancêtres et autres là, nul ne peut transcender à cela. Donc quand un problème entre un Maori et un Peul, on dit à l'autre, et toi, tu ne sais pas que c'est un Peul, automatiquement lui il se refroidit. On dit que c'est un Beriberi, automatiquement ça baisse. Bogobiri, Germain, son rein, on te dit c'est un Bogobiri, automatiquement le cas est terminé. Donc voyez-vous, ça, ce côté-là, la parenté à présenter, c'est notre force vitale, nous, au Niger, et ça, on doit préserver et on doit consolider de cela.
Mais est-ce qu'il y a... Oui, monsieur Reverend. Oui,
j'ai voulu ajouter quelque chose que le CEDIR est en train de faire. Récemment, nous étions donc à Maradi, où on a demandé de nous envoyer deux leaders religieux, un chrétien et un musulman, au niveau de toutes les régions du Niger. Et ils ont reçu une formation donc sur le Dunoham, comme je l'ai dit, ne pas nuire. Et comme notre émission touche donc, n'est-ce pas, la paix touche la cohésion également et cette menace qui est un peu partout dans le pays et dans les grandes villes. Donc nous avons formé ces gens-là et c'est en vue qu'ils partent et répliquent cela dans des régions. Et bientôt, si en tout cas Dieu nous le permet, nous avons programmé aussi une autre rencontre à Tawa. Ça, c'est à l'endroit de la jeunesse. Donc des jeunes vont venir de 8 régions du pays et ces jeunes seront aussi formés et ils seront encouragés également à se prendre en tout cas en charge dans ce sens qu'ils trouvent du travail et ça peut contribuer et résoudre quand même un certain volet de problèmes que nous avons au niveau de la société.
Oui, justement, sur le terrain, est-ce qu'il y aurait des difficultés ou obstacles que vous rencontrez dans l'accomplissement de vos missions?
Bon, pour le moment, je peux dire le seul obstacle, je crois que c'est le soutien qui va nous permettre de réaliser cela. Nous travaillons avec des partenaires, mais nous attendons encore le soutien de l'État par rapport à cela. Puisque le travail que nous faisons, tous ceux qui sont dans le CEDIR, ils ne sont pas, comment on appelle, salariés, ils ne sont pas rémunérés. Nous le faisons d'une manière bénévole. Et bon, dans le cadre religieux également. Donc, notre faiblesse, ou du moins, ou notre besoin, c'est vraiment ce soutien-là. Ce soutien qui peut nous permettre de nous déplacer rapidement. Et en cas de problème, si on nous invite à y aller, donc si on n'a pas les moyens de se déplacer, vous voyez, ça constitue un problème. Donc voilà.
Monsieur Alou Meiga, cette insécurité dont nous parlons est une réalité. Vous, quels sont les grands défis qui se posent aujourd'hui au comité, au CEDIR, dans ce contexte d'insécurité?
Dans ce contexte d'insécurité, le CEDIR, effectivement, c'est le problème, c'est-à-dire que le problème dans lequel vivent les populations concerne effectivement, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le prophète a dit, celui qui ne fait pas des problèmes des autres, le sien n'est pas des nôtres. Donc, en tant que religieux, le problème que vivent les membres de la société nous touche également. Et nous, au niveau de CEDIR, ce que nous aimerions, c'est qu'il faut qu'il y ait une collaboration très rapprochée et surtout de consistance entre la population et nos forces de défense et de sécurité, puisque ce sont ces forces de défense qui mettent leur vie en danger tous les jours pour nous préserver de difficultés et de maux que vive la société. Donc, ces gens, il faut une collaboration franche, il faut que les populations sachent que ces forces de défense et de sécurité sont là pour elles, et elles sont issues d'elles justement, ne pas les considérer comme des forces d'occupation ou autre. Non, non, non. Ils sont des Nigériens, issus des Nigériens, venant des Nigériens, donc ils sont là pour les Nigériens. Et ça, c'est très important. Nous, au niveau du CEDIR national, nous, à chaque moment que cela est possible, nous attirons l'attention des populations qu'il faut qu'elles aillent s'ouvrir à ces forces de défense, les aider à mener à bien leur mission.
Voilà. On le sait, la police nationale est à pied d'œuvre de la lutte contre cette insécurité, parce que chaque deux jours, on entend que la police a mis la main sur une bande de malfrats. Mais selon vous, comme l'émission tire à sa fin, Reverend, comment endiguer ce phénomène?
Nous entendons effectivement ce qui se passe. Moi, je crois que la base Et ce qui peut nous permettre d'endiguer cette situation, c'est la crainte de Dieu. C'est très important. Parce que sans Dieu, c'est la barbarie. Qu'on vit comme des animaux. Donc, mais quand on a la crainte de Dieu, ça amène une certaine transformation au-dedans de l'individu, et il va chercher à se conformer à la volonté de Dieu, qui veut que nous puissions, nous vivions ensemble en paix, qui veut que nous fassions quelque chose, en tout cas pour le progrès de tout un chacun. Donc moi je crois que les prédicateurs, marabouts comme pasteurs, ont une grande responsabilité pour prêcher, pour attirer l'attention, pour prier également, parce que c'est très important. Face à une situation difficile, nous venons de dépendre en tout cas toutes sortes de choses qui se passent. Alors ça, nous devons prendre en compte cela dans nos prières. Prier pour que Dieu nous apporte une solution par rapport à ça, qu'il parle au cœur des individus, qu'il donne la sagesse également à nos forces donc de défense, et qu'il aide la population à se prendre en charge aussi face aux phénomènes qui nous assaillent.
D'accord. Alou Mega, vous, de votre côté, avez-vous des attentes particulières à l'endroit des populations, de l'État ou d'autres acteurs, même dans le cadre de la lutte contre
pour tout un chacun, il faut de la vigilance et surtout il faut de l'engagement de la part et d'autres. Chacun doit considérer le problème de tout le monde comme ses propres problèmes. Ne pas se mettre de côté et croire que nos dodos, ça n'arrive qu'aux autres et que ça ne vous arrive. Alors nous sommes tous concernés. C'est ensemble qu'on doit lutter contre ces phénomènes-là. Et avec des pratiques qui sont honorables, on doit se dresser. Tout ce qui est déviation et autres, on doit lutter contre tout. Quand vous voyez un enfant qui de l'autre côté, il faut le signaler. Il faut bien que les forces de défense et de sécurité fassent le travail et qu'on le traduise devant la justice, qu'il fasse que la loi, comment dirais-je, soit là pour le réprimer. Mais effectivement, on voit des parents après. Une fois que la police appréhende leur enfant, elle court derrière le commissariat, mon enfant n'a rien fait, il est ceci, ceci, alors que c'est complètement faux. Deux fois, il y a même la complicité,
De ces mêmes parents.
Puisque l'enfant part voler, il vient, il veut remettre, le gars, il comme Albarca Daniga, alors que c'est de la forfaiture. Donc, vous voyez, on le voit tous les jours. Il faut que cet état de choses cesse, il faut que les gens, quand qu'on soit courageux, prendre même son enfant, amener à la police, il faut le dresser.
Ça pourrait vraiment réduire
Être un vrai nationaliste, être quelqu'un qui est responsable, qui veut que sa nation prospère et aille de l'avant. On le souhaite pour notre pays.
Merci bien, révérend. Peut-être un dernier appel à toute la population.
L'appel que je ferai pour la population, d'abord que nous puissions nous-mêmes nous organiser. De ne pas penser que si ça arrive à un tel demain, ça ne peut pas arriver sur nous. Donc ça, c'est une prise de conscience, que nous puissions nous organiser. Deuxièmement, les parents, qu'ils prennent leurs responsabilités. Parler à leurs enfants, donner des exemples, des bons exemples à leurs enfants. Et troisièmement, aux responsables religieux, qu'ils puissent en tout cas intégrer cet enseignement de la crainte de Dieu, de la justice, de l'amour fraternel de leurs prêches, et aussi qu'ils prient afin que nous puissions vivre en paix au Niger.
Merci bien, il faut qu'on vive en paix au Niger. L'insécurité sous différentes formes gagne malheureusement du terrain et impacte négativement la société. C'est ce qui ressort donc de l'intervention de nos invités. Pour vraiment lutter contre cette insécurité, il faut une prise de conscience de la jeunesse, de la population, surtout la jeunesse qui s'adonne à différentes formes d'actes de violence. À l'État de garantir un accès à des emplois à ces jeunes pour les occuper, à la population d'être beaucoup plus vigilante. De par donc les interventions de nos invités, nous avons constaté que les différentes religions sont contre tout acte de violence et sont actives pour lutter contre toute forme d'insécurité. Merci donc, chers invités, c'est la fin de ce forum et merci bien à tous de nous avoir suivis. Nous étions donc en compagnie du révérend Djergou Baragé et Alou Mehama Meiga, tous membres du Comité national de dialogue intra- et interreligieux au Niger. Je suis Nafissa Adam Sirfo à la modération. La technique a été assurée par Abdoulaye Yakouba. À très bientôt sur le studio Kalangou. Au revoir.